Trevor, 7 ans, Australie, Outback. Un vieux drapeau australien, élimé et troué, se hisse le long d'un mât de bois pelé par l'aridité. Il grimpe vers le ciel par à-coups. C'est l'instant qui précède le lever du soleil. La pénombre nocturne commence tout juste à pâlir, repoussée par le jour qui pointe. Une poulie grince, un enfant sifflote. Les deux cordes qui entrelacent le tronc patiné et se croisent dans un déplacement parallèle, l'une montant, l'autre descendant. De petites mains se relaient pour tirer le fil. À tour de rôle, elles apparaissent, puis se dérobent derrière un chapeau en croûte de cuir. Un vrai chapeau de cow-boy, râpé, à la calotte plate. Son aspect usé nous apprend qu'il est salutaire, sa petite taille qu'il n'appartient pas à un homme, mais à un enfant. Les yeux de Trevor guettent la fin de l'ascension du drapeau. Satisfait, il accroche solidement la corde. S'il a le geste si sûr, c'est qu'il a l'habitude. Comme chaque jour, Trevor vient de s'acquitter du rituel de la levée des couleurs. Il est 4h30 du matin. Le drapeau frétille maintenant haut et libre face à la ferme. C'est la première d'une longue série de tâches à accomplir dans la journée de ce petit farmer de 7 ans. Avec sa chemise à carreaux tombant sur son jean, son chapeau sanglé autour du cou, Trevor est un cow-boy miniature. Au son strident de la multitude de perruches perchées dans les arbres, la clarté continue de grignoter l'obscurité sur le vaste et spectaculaire espace qui encercle Clifton Hill Station, la homestead de Trevor. Il habite l'Australie profonde, à mille lieues des métropoles cosmopolites ou des forêts humides de la côte. Il vit isolé, dans les terres intérieures du bush australien, sur une exploitation agricole grande comme un département français. Ce territoire immense et pastoral des premiers pionniers et des aborigènes, peuplé majoritairement de vaches et de moutons, est si aride qu'il tire son nom des buissons ardents et desséchés qui sont son unique végétation, les bouches. Perdu dans l'outback, son ranch est un îlot chèrement gagné sur l'étendue des terres rouges. Il est bâti en retrait, loin de tout, au sud-ouest de l'état du Queensland, un des endroits les plus reculés de la planète. Ses plus proches voisins se trouvent à 70 km de piste. La ville la plus rapprochée, Birdsville, est à plus de 200 km, et son école à 700. Clifton Hill Station se dresse ici dans la fournaise du « désert de cailloux », comme l'avait surnommé l'explorateur Charles Sturt. Les températures y sont extrêmes, froides la nuit jusqu'à moins 5, elles sont caniculaires le jour. Au plus chaud, elle grimpe à 55. Mieux vaut pour Trevor s'acquitter des tâches extérieures avant l'aube. Il décampe sur sa petite moto et rejoint la piste poussiéreuse. Ses mains passent les vitesses avec adresse. Né au vent, son bras de chemise claque et ses petites bottes s'élèvent à chaque chaos. C'est grisant de filer ainsi à pleine vitesse. Aux abords de la piste, des barrières bornent l'espace de liberté des vaches. Ils s'éloignent dans un nuage de poussière ocre. Les pales en métal rouillé du water tank tournent anarchiquement au-dessus du trépied de bois, cherchant le sens du vent en grinçant. La moto approche et le bruit du moteur se fond dans celui des pales. L'engin tourne, un peu à l'arrêt, puis s'éteint. Trevor marche vers la citerne alimentée par la vieille éolienne. Son chapeau n'arrive même pas à la hauteur du grand bassin de tôle. Il doit grimper sur une grosse pierre pour parvenir à voir l'intérieur et en vérifier le niveau. La lumière du soleil naissant, reflétée par le liquide, y est renvoyée en scintillement ondulant. Il lève les yeux vers le moulin à la recherche du moindre signe de dysfonctionnement. Un seul grain de sable dans le mécanisme de forage mettrait en danger tout le cheptel qui s'abreuve ici. Sans eau, on ne survit pas dans ce désert brûlé. Et le bétail mort, c'est le gagne-pain qui disparaît. Allez, rien à signaler. Satisfait, Trevor retourne vers sa moto. Un gros lézard jaune et noir file entre ses pieds, chaussé de solides et confortables chaussures de marche. Il manque de justesse de se faire écraser. Les bovins beuglent de plus en plus fort. Ils convergent vers le point d'eau pour se désaltérer. Trevor appuie avec force sur le kick de démarrage et le moteur se met en marche. Le drapeau ondule toujours au-dessus de la maison en toit de tôle. La moto est posée sur sa béquille devant un hangar. Trevor est de retour à la ferme. Le ciel est d'un bleu puissant, mais un quartier de lune blanc s'obstine à briller encore nettement. Un genou posé dans le sable terreux et rouge, la grande sœur de Trevor, Kaylee, triture une jonction du tuyau d'arrosage automatique. L'eau toujours. Elle est au milieu des plantations potagères, entre salades et plants de tomates. Trevor est à quatre pattes non loin d'elle. Il a toujours son chapeau vissé au crâne. Ils n'échangent pas un mot, pris dans leur activité. On parle peu dans les bouches. Est-ce l'habitude de la solitude des grands espaces ? Trevor remet le tuyau à la bonne place pour qu'il arrose efficacement les plantations. Il chasse une poule trop aventureuse. Un serpent se faufile entre les herbes. Tout près, par la fenêtre de la cuisine, on entend l'huile frire dans la poêle et le son d'une fourchette heurtant la fonte. Il se mêle au frottement des ailes de grillons qui chantent de toute leur force avant que le soleil ne soit trop haut. Les mains de Kelly et celles de Trevor sont terreuses, humides. Ils progressent dans le potager. Au passage, Trevor cueille une grosse tomate mûre à point. Devant la porte de la cuisine, deux perroquets rouges, aux ailes bleues, trempent leur bec dans une vieille écuelle pleine d'eau. À l'intérieur, Terissa, la maman de Trevor, s'affaire sur une boule de pâte qu'elle pétrit. Elle aplatit la préparation jusqu'à former une crêpe. Il y a un air de famille évident entre Terissa, Kelly et Trevor, la forme de la bouche, le regard caractérisant la lignée familiale. La galette échoue dans la poêle pleine d'huile. Au contact bouillant, elle crépite et gonfle jusqu'à former les cratères de bulles dorées. Sur le plan de travail est posée la tomate cueillie par Trevor. Terissa se frotte énergiquement les mains avec du savon. Trevor est monté à l'étage préparer ses affaires. Une araignée se faufile sur le rebord de la fenêtre. Au mur de sa chambre, un poster de l'affiche du film Ned Kelly avec Naomi Watts. Ned Kelly est un célèbre bushranger, hors la loi, icône populaire du 19e siècle, le Robin des Bois australien. Sur le lit trône une petite valise ouverte, presque pleine. Bien pliée sur le dessus d'une pile de vêtements, un polo bleu royal est rayé de bandes jaunes, avec les armoiries de l'école. À côté, un chapeau de la même couleur, lui aussi marqué de l'écusson de l'école. Trevor prend le journal, Gumbuya, et le glisse dans la valise. C'est le magazine annuel de son école. Dans le sommaire est imprimé, sur le cliché du bâtiment principal, de la Mount Isa School of the Air. Sans y être jamais allé, Trevor connaît bien les lieux grâce aux photos. Debout devant son petit bureau, il se saisit de trois copies à l'écriture soignée, qu'il range dans un dossier. Les élastiques claquent sur l'étiquette pré-imprimée à son nom. Il inscrit la date du jour sur l'espace réservé, et le met dans une pochette zippée aux couleurs de l'école. Une crêpe par assiette, 5 assiettes sur la table recouvertes d'une toile cirée vieillotte. Les bols fument, remplis de lait chaud. Wayne, le grand frère de Trevor, a l'appétit solide, bien qu'il ne soit que 6h du matin. Il taquine son petit frère qui va aller à la ville. C'est une première pour Trevor, lui qui ne s'est rendu qu'une seule fois à Birdsville, la cité la plus proche. Encore ne compte-t-elle que 250 habitants. Cela fait sourire Terissa. Elle souligne que c'est une étape importante que Trevor va franchir demain. Il va aller à l'école. Il va aller à l'école pour la première fois. Car depuis qu'il est en âge d'apprendre, c'est l'école qui vient à lui. Comme tous les enfants du bush australien, trop isolés pour se déplacer, Trevor est scolarisé par les ondes. Il n'a jamais vu ni son professeur, ni ses camarades. Il faut dire que sa salle de classe est la plus grande du monde, avec 1 300 000 km² et 150 élèves. Certains habitent même à plus de 1000 km de l'école. Les enfants de l'Outback découvrent la vie d'écolier pour la première fois à l'âge de 7 ans, quand ils quittent leur famille pour vivre une semaine au pensionnat de la School of the Air à Muntisa. C'est l'occasion d'un premier séjour de découverte et d'adaptation. Demain est donc un grand jour. Terissa est très émue. Elle camoufle pudiquement son émotion en insistant plus que de raison sur la nécessité de bien manger et de prendre des forces. Trevor sourit aux uns et aux autres. Il est un peu le héros du jour, celui qui s'apprête à vivre une grande aventure. Kelly ajoute qu'elle va enfin rencontrer ses copains de classe. « Hey, copine !» renchit Rowan avec un clin d'œil. Cela met mal à l'aise Trevor qui rougit. Riley, son père, ramène la conversation à des considérations plus prosaïques. C'est lui qui emmènera Trevor à l'école et cela lui prendra 2 jours. Départ prévu demain à l'aube pour profiter de quelques heures de route sous une chaleur supportable. Et je vais préparer le pick-up pour que ce soit prêt ce soir. Les provisions qu'on emmène sont prêtes ? Demande Riley. Terissa acquiesce. Tu es sûr que tu ne veux pas que je vous accompagne avec une deuxième voiture au cas où ? Dit Wayne. Non. C'est plus urgent que tu t'occupes de récupérer le bétail qui s'est dispersé au sud. Il risque de ne pas trouver l'eau et de crever. J'ai la radio HF et on signalera notre passage à l'entrée de Simpson Desert et notre estimation de temps de trajet.
Les pistes sont en quel état ? Demande Wayne.
D'après les rapports de route de ce matin, la piste entre Birdsville et Bedouri est praticable. La rivière n'est pas en crue. Je vais revérifier ce soir.
C'est un paradoxe de voyager dans une des contrées les plus sèches de la Terre et de risquer de se retrouver bloqué par une inondation.
Bien que désertique, il arrive fréquemment que cette aire immensément plate se transforme en marécage à la suite de grosses averses, rendant inaccessibles par voie de terre les fermes, les laissant dans un isolement complet pendant plusieurs jours. Les dirt roads de l'outback deviennent vite glissantes et inondées, et il faut sans cesse se tenir au courant de l'état des voies. De même, la prudence veut que l'on ne parte pas sans fournir un itinéraire plus ou moins précis à sa famille et aux rangers.
Il est déjà 8h. Trevor quitte la table du petit déjeuner car il est attendu. Il se dirige vers une petite pièce attenante à la cuisine. À l'intérieur, le monde est suspendu au mur par 4 bouts d'adhésif. Les crayons sont rassemblés sagement dans un pot avec les ciseaux, la colle, la règle. Sur la table, une feuille dactylographiée est collée avec du scotch. La famille de Trevor ainsi que toutes celles dont les enfants sont scolarisés à la Muntisa School of the Air se sont vues fournir l'équipement radio nécessaire pour que l'enseignant et les élèves puissent communiquer et s'entendre les uns les autres. Trevor allume la radio HF sur la fréquence habituelle. Un moment de patience, le temps que tous les élèves de sa classe répartis sur le vaste territoire fassent de même. Avant que l'enseignant ne prenne la parole, quelques minutes de battement sont concédées pour laisser les camarades de classe échanger entre eux. Puis, la voix grave et chaude du professeur souhaite le bonjour à tous ses élèves. Le protocole a établi un principe accepté par les écoliers. L'élève ne prend la parole que lorsqu'il y est invité par son professeur. En préambule, comme toujours, celui-ci leur propose à tous de se lever pour écouter la prière. « Trevor, » demande le professeur, « aimerais-tu lire la prière de l'école pour nous, s'il te plaît ?» Prenant la sollicitation très au sérieux, Trevor, debout, garde cependant sa feuille dactylographiée accrochée sous les yeux pour être bien sûr de ne faire aucune erreur. « Dieu, nous te prions de faire en sorte que notre vie dans cette école soit plus noble, de nous aider à être plus honnêtes, plus indulgents et moins égoïstes. » Ses bras sont parallèles à son corps, sa voix est claire et audible. Fais en sorte que notre vie soit vertueuse, qu'aucune pensée, mot ou action n'attire le déshonneur ou la honte sur notre école et ceux que nous aimons. Amen. Trevor entonne ensuite l'hymne national australien, avec tous les enfants connectés, puis se rassoit. Le professeur reprend la parole et débute sa leçon. Chaque cours dure 30 minutes, sauf certaines matières qui requièrent 45 minutes d'attention. Ce sont des enseignements communs à tous, car l'école tient à privilégier une relation de proximité entre ses enfants et le sentiment pour chacun d'appartenir à une même classe. Chaque élève doit donc pouvoir entendre les réponses des autres. Cela compte pour la cohérence du cours et contribue à briser l'isolement. S'ajoute, au temps collectif, une demi-heure par semaine d'entretien particulier avec le tuteur, équivalent de notre professeur principal. Toute la matinée, Trevor enchaîne les cours. À l'école, par les ondes, on travaille uniquement le matin, entre 8h et 14h, pour laisser les enfants du temps pour les autres activités. D'abord parce que tous participent aux travaux domestiques de la ferme, mais il existe une autre raison plus pragmatique. Avec la probabilité d'orage soudain et donc de tonnerre provoquant des interférences, le matin reste le créneau le plus propice aux communications. À la fin de la session, le professeur exprime son impatience de faire connaissance avec chacun d'eux le lundi suivant. Il leur donne rendez-vous pour une semaine de découvertes et d'activités en commun et leur fait la promesse qu'elle sera inoubliable et pleine de surprises. Le ciel est d'un bleu éclatant en ce début d'après-midi, mais l'air est lourd, suffocant. Le thermomètre affiche 43 degrés à l'ombre. Un point noir se distingue dans l'azur sans tache. C'est un faucon. Il bat des ailes puissamment, puis se met à planer. Le rapace fait de longs virages. Il descend en piqué à vive allure, alors que le son d'un monomoteur est de plus en plus proche. L'oiseau de proie continue à descendre lorsque se produit le brusque contact des roues touchant le sol. L'avion déboule sur la piste et provoque un nuage rouge et poussiéreux. Quand il a freiné, il entreprend de faire un demi-tour. L'hélice tourne encore à pleine vitesse quand il approche de Terissa. Elle a dans les mains des lettres et la grande enveloppe zip de l'école qu'a préparée Trevor. La porte s'ouvre sur un jeune pilote souriant. Il apporte un gros colis d'approvisionnement, des médicaments, le courrier. L'avion est la réponse à l'isolement du bush, que ce soit pour les télécommunications, la scolarité ou la santé. Difficile d'avoir accès à des infrastructures médicales dans l'immensité désertique de cette Australie intérieure. Heureusement, aujourd'hui, il n'y a plus aucun patient qu'un médecin ne puisse atteindre en moins de 2 heures grâce au Flying Doctor Service. Il intervient en cas d'urgence. Au fin fond de cette région si reculée, Terissa veille à ce que sa pharmacie, très complète, soit renouvelée en permanence. Il vaut mieux se montrer autonome et prévoyant. Elle échange la lettre à destination de l'école contre ses paquets. Le bruit du moteur, qui continue de tourner, couvre leur voix. Terissa savoure cet instant de sociabilité. Les occasions de conversation ne sont pas si fréquentes. L'avion de la West Wing Aviation redécolle et il reviendra délivrer des provisions et le courrier dans une semaine. Chapeau tombant sur les yeux et masque anti-poussière pour couvrir sa bouche et son nez, Trevor ressemble à un petit bandit masqué. Il est penché sur l'établi et s'emploie à polir une pièce de métal à l'aide d'une scie à air comprimé. La mécanique est sa grande passion, et à la ferme, il a de quoi s'occuper. Des particules métallisées flottent dans l'air, resplendissantes dans la lumière à contre-jour, et ceci passe par la porte grande ouverte du spacieux hangar. Au fond, Riley passe plusieurs fois les bras chargés. Le coffre à ouverture latérale du pick-up poussiéreux soutient la traditionnelle roue de secours. Il charge deux larges roues de secours supplémentaires par la porte arrière battante. Prendre la route dans ce désert rouge où il est si facile de se perdre, même quand on y vit, ne s'improvise pas. Il faut pouvoir faire face aux imprévus. Il frotte ses mains sur son jean pour les épousseter et essuie avec son bras la sueur de son front. Trevor passe un chiffon sale sur l'établi. Dans le hangar, en tôle ondulée, il fait plus de 40 degrés. La carrosserie du vieux Ute, un Ute c'est un pick-up australien, donc la carrosserie du vieux Ute, tout terrain, est bosselée. Difficile de se souvenir de la couleur originelle de la peinture sous la couche de poussière ocre qui le recouvre. Ses larges pneus sont striés de terre séchée. Riley enfourne à l'arrière une pelle et deux gros barils d'essence qu'il cherche à caler dans le fond avec un tendeur. Il appelle son fils. Hey, « Hé Trevor, viens m'aider à charger, s'il te plaît. Passe-moi les quatre bidons d'eau près de toi, et ensuite les provisions qui sont dans le carton. » Trevor soulève l'élastique de son masque pour libérer sa respiration, mais déjà costaud, il attrape à deux mains le premier bidon. Les affaires s'entassent. Trevor fait aussi passer à son père un vieux pneu usagé, à faire brûler en cas de panne pour faciliter leur localisation par les secours. Enfin, Riley veille à ce que les swags, les sacs de couchage, soient accessibles facilement. Carburant, nourriture, eau, moyens de communication, le véhicule est maintenant équipé pour leur odyssée à quatre roues à travers le Red Center australien. Samedi, 4h du matin, la lumière pâle arrive à l'horizon. Le drapeau flotte déjà sur Clifton Hills. Une portière claque, les pistons du diesel tremblent. Une deuxième portière se ferme. La main de Riley enclenche la marche arrière sur la boîte de vitesse, son pied relâche l'embrayage. Trevor est assis sur le siège passager à gauche de Riley, puisque le volant est à droite. Jean délavé flottant, chemise verte aux manches retroussées, basket et toujours son chapeau sur la tête. Le pare-choc avant enfoncé recule, la voiture manœuvre, passe en marche avant et sort du hangar. Poussière ocre prend naissance sous les pneus du tout-terrain et enfle dans son sillage. Côte à côte, silencieux, Riley et Trevor aperçoivent dans le large rétroviseur extérieur leur ranch qui rapetisse au fur et à mesure qu'ils s'éloignent. Dans leur ligne de mire, la piste rectiligne s'étire à l'horizon. Le désert rouge, plat et aride, rude et rocailleux, constellé de poches d'eau salée, s'étale. Un vrai décor de cinéma avec ses steppes d'eucalyptus, ces cratères creusés par des chutes de météorites, ces cordons de dunes rouges. À la sortie de Clifton Hills, Riley bifurque à gauche. Il n'a pas d'autre choix que d'emprunter l'unique route, la Birdsville Outside Track, pour rejoindre Birdsville, première étape de leur trajet, à plus de 200 km. Tracé à l'origine pour acheminer le bétail du centre du Queensland au chemin de fer de Mary, la piste est de sinistre réputation. De nombreuses personnes et bêtes y ont autrefois perdu la vie. Elle contourne aujourd'hui les dangereuses plaines inondables de la rivière Diamantina, mais reste difficilement praticable. Les quatre roues motrices de la voiture de Riley sont indispensables. Le trafic des road trains, ces camions colossaux qui tirent trois ou quatre remorques et sillonnent cette route de sable et de gravier, la détériore sérieusement.
Un panneau prévient d'ailleurs de leur présence et met en garde les conducteurs. Caution, road train 53 meters long. Attention, nombreux camions longs de 53 mètres. Le paysage qui défile grandiose donne une idée de l'immensité du lieu. Il raconte l'environnement hostile de Trevor, l'isolement, la rudesse du mode de vie, le labeur et la solitude. Mais la liberté et la maturité acquise par une vie au plus près de la nature sauvage est importante. En partant faire connaissance avec le milieu urbain et ses codes, Trevor s'apprête, sans le savoir, à vivre une expérience mémorable. La voiture roule à gauche, comme c'est l'usage en Australie. Une nébuleuse de poussière sanguine tournoie au loin. L'entonnoir nuageux vient dans leur direction. Ils s'étirent, tourbillonnent et augmentent en se rapprochant. Riley et Trevor savent déjà que c'est la traînée d'un de ces gigantesques road trains lancés à pleine vitesse. Le monstre de plus de 40 mètres de long approche à grands pas. Quand il n'est plus qu'à quelques mètres, Riley se déporte sur le bas-côté et stoppe pour le laisser passer. Le regard de Trevor est aimanté par l'impressionnant semi-remorque. Il le suit des yeux. La bourrasque de sable en suspension provoque une secousse du véhicule, fait trembler les vitres et les isole totalement. L'espace d'un court instant, ils sont dans l'œil d'un cyclone de poussière. Il faut plusieurs minutes afin que la visibilité ne se rétablisse et leur permette de repartir. Sur la droite est indiqué « Welcome to Birdsville », bienvenue à Birdsville. Regional winner, Titusville in 2012. Ce panneau défraîchi vante le prix de la ville la plus propre en 2012 et souhaite la bienvenue aux visiteurs. Père et fils circulent sur Billabong Boulevard. La ville est presque fantomatique. De grandes rues vides, pas de piétons, peu de voitures. Le tout-terrain se gare au pied de la Post Office, coincé entre le General Store et la Bakery. Post Office, bureau de poste. Bakery, boulangerie, general store, épicerie. Riley et Trevor descendent et s'étirent. C'est leur première halte depuis le départ, ils sont légèrement engourdis. 5 heures de piste pour 200 km parcourus. Même pas un quart du voyage. Ici, on ne compte pas les distances en kilomètres, mais en temps. Riley inspecte la voiture, particulièrement vigilant à l'état des pneus. Trevor le suit. Il entre dans la boutique. Trevor ouvre la porte du réfrigérateur libre-service et se sert une boisson fraîche. Au comptoir, Riley commande une grande tourte au chameau à emporter et deux Lamington, des pâtisseries, à consommer sur place. Fait à base de beurre, d'œufs et de chocolat, le tout enrobé de noix de coco. C'est un gâteau traditionnel dont raffole Trevor. Tout en croquant dans le biscuit, Riley échange avec le commerçant quelques mots sur l'objet de leur voyage, la chaleur qui va s'intensifier. Il évoque surtout l'état de la Bilby Way, la piste qui relie Birdsville à Bedouri, prochaine agglomération sur leur trajet qu'ils n'atteindront que le lendemain. Et il en profite pour lui demander où se trouve la station service de Birdsville. Par précaution, il a emporté deux bidons vides à remplir de carburant pour parer à toute éventualité. Les points de ravitaillement sont rares et très éloignés les uns des autres.